Clément nous a partagé qu'il a pris une décision hyper importante, cruciale même, une décision qui l'engage pour la vie et qui l'engage dans tous les aspects de sa vie. Et ce n'est pas la décision de se faire baptiser. C'était la décision d'avant. C'était la décision quand il était seul dans sa chambre. C'était la décision quand il a prié. Parce qu'il a pris la décision de devenir un disciple de Jésus. Et ce baptême, c'est juste le signe, c'est juste la démonstration, c'est juste le témoignage de la décision qu'il a déjà prise, de devenir un disciple de Jésus. Ce témoignage du baptême, c'est ce que les premiers disciples qui avaient vécu avec Jésus pratiquaient déjà, et que depuis 2 millénaires, les chrétiens continuent de faire. Être disciple. Et par ce baptême, Clément nous dit « Moi, j'ai choisi d'être un disciple de Jésus. » Rassurez-vous, les sandales et la tunique sont optionnelles. Pas forcément besoin de ça pour être disciple. Les cheveux longs aussi, mais c'est selon. En début d'année, dans l'église, on avait démarré une petite série qu'on avait appelée « Être disciple ». Et on avait parlé de 4 éléments autour de cette première thématique. Être disciple, c'est cheminer avec Dieu. Et cheminer avec Dieu, c'est d'abord recevoir son amour et être transformé petit à petit par cet amour que Dieu a pour nous. Cheminer avec Dieu, c'est aussi développer en retour notre amour pour lui. Et on avait parlé aussi de cheminer avec Dieu par la prière et cheminer avec Dieu par la lecture de la Bible. Des choses hyper intéressantes, motivantes, qui nous aident à grandir dans notre relation avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le témoignage de Clément. Il n'est pas le seul à être passé par là, mais dans son parcours, il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la douleur, il y a eu des pleurs, il y a eu des remises en question. Il y a eu de l'angoisse, il y a eu des difficultés. Et être disciple, c'est aussi cheminer avec Dieu à travers ses défis. Durant ce mois de juin, on va avoir quelques cultes sur cette thématique de cheminer avec Dieu à travers les défis. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un défi tout particulier, celui de la souffrance. Parce que ça a été dans le parcours de Clément, à la fois un élément qui l'a fait s'éloigner de Dieu et un élément qui l'a fait se rapprocher de Dieu. Mais quel défi que celui de la souffrance ! Quel défi ! Qu'on soit croyant ou non, qu'on soit disciple de Jésus ou non, peu importe les temps, les époques, les cultures, la question de la souffrance est toujours là, récurrente, lancinante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois passer par là ? Pourquoi cette souffrance ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que je peux les éviter, les souffrances ? Comment pourrais-je les vivre ? Ça serait évidemment hyper prétentieux de ma part de, en quelques minutes, répondre à ces questions, même en quelques heures. C'est un sujet complexe, c'est un sujet douloureux, et c'est un sujet dans lequel on tombe tellement facilement dans les clichés, dans les messages simplistes, parfois creux. Et vous avez peut-être vécu ça. Quelqu'un qui avait de bonnes intentions, qui voulait vous encourager, et qui vous frustre et vous déçoit. Plus qu'autre chose, parce qu'il est incapable de vous comprendre dans votre souffrance. Peut-être que c'est votre cas aussi. Vous êtes maladroit, vous voulez encourager quelqu'un et on ne trouve pas les mots, on dit des choses qui parfois ne devraient même pas être dites. Néanmoins, j'aimerais quand même partager une pensée ce matin. Est-ce que Clément a choisi de suivre Jésus, maintenant, les difficultés et les souffrances vont disparaître ? Est-ce que ça va être plus facile pour lui ? Est-ce que maintenant, à Domaine, il va y avoir un petit microclimat et il n'y aura plus aucun nuage qui passera au-dessus de son appartement ? Et il n'y aura que du beau temps ? Évidemment, non. Quand on parle de souffrance, on réalise assez vite qu'il y a différents types de souffrance, il y a différentes origines à la souffrance. Il y a des souffrances qui sont issues de nos mauvais choix, voire de nos choix peut-être stupides. Des choix qu'on peut faire individuellement ou des choix qu'on peut faire collectivement. Je vais prendre un exemple qui vous parlera à vous, qui n'aurait peut-être pas parlé aux enfants qui sont sortis. Mais si je choisis de faire un régime basé uniquement sur du Coca-Cola et de la crème au chocolat, mon corps, au bout d'un moment, va me faire souffrir. Bien sûr, c'est évident. Il y a des choses peut-être un peu moins évidentes parfois dans la vie, mais on sent bien que par nos choix individuels et collectifs, on peut se retrouver dans des situations de souffrance. Certaines souffrances sont liées aussi à nos dysfonctionnements. Si je développe des mauvaises habitudes, des mauvais fonctionnements, par exemple dans mes relations avec mon conjoint, mes enfants, mes proches, je vais les faire souffrir et je vais souffrir aussi moi-même. Et je vais avoir besoin de comprendre, d'identifier ces dysfonctionnements. Je vais avoir besoin d'apprendre à gérer et à faire les choses différemment. Ça sera difficile, j'aurai probablement besoin d'aide et d'accompagnement pour cela. Mais mes mauvaises façons de fonctionner peuvent aussi m'apporter de la souffrance. Et si ça s'arrêtait là, ça serait tellement simple, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a aussi tout le reste. Tout le reste où on ne comprend pas, où il n'y a pas d'explication, on ne trouve pas d'origine. Les difficultés, les mauvaises nouvelles où la douleur nous frappe de plein fouet et on se retrouve au cœur d'une tempête qui nous laisse perdus, désorientés. On cherche un sens, on cherche une raison à laquelle nous pourrions nous accrocher, mais on ne trouve pas d'explication. Alors est-ce qu'être un chrétien, est-ce qu'être un disciple de Jésus change quelque chose là-dedans ? À la fin du 1er siècle, l'apôtre Paul a écrit une lettre aux chrétiens qui étaient à Rome, dans laquelle il affirme avec audace, je trouve, que les souffrances auxquelles nous sommes confrontés dans le temps présent ne tiennent pas la comparaison face aux choses bonnes, parfaites et époustouflantes à venir. Un verset magnifique, extraordinaire, mais entre nous tellement difficile à intégrer quand on est au cœur de la souffrance. Alors Paul, dans son explication, il nous donne deux éléments à considérer dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Deux éléments pour nous aider, pour nous permettre de comprendre et d'avancer. Il nous parle de l'espérance de la vie éternelle, et il nous parle de l'action de Dieu dans notre vie déjà présente. Alors, l'espérance de la vie éternelle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé dans l'Église en début d'année, on a fait plusieurs messages là-dessus. Désolé pour vous qui n'étiez pas là, mais revenez à l'Église, vous voyez, on traite des sujets intéressants, il ne faut pas hésiter. Mais je vais quand même en dire juste deux mots très rapidement, parce que souvent, quand on parle d'espérance chrétienne, quand on parle d'éternité, on résume souvent ça au fait que Dieu va respecter notre choix de vouloir vivre avec lui ou non. Et c'est profondément vrai. Mais Paul, dans Romains 8, il va nous dire un petit peu autre chose, il va aller un peu plus loin, il va faire le constat que, pas simplement les chrétiens, mais l'humanité entière, la création même entière, gémit. Gémit sous le poids de la servitude, de la corruption, de la dégradation. Et l'espérance que nous avons, c'est que Dieu va apporter la délivrance. C'est que Dieu va apporter la parfaite liberté. C'est que Dieu va réparer, restaurer toute chose. Et nous, nous sommes dans cette attente. Dans cette attente qui nous rend actifs, pas qui nous rend passifs. Parce que Dieu, dans sa grâce, veut restaurer les choses au travers de nous, ses enfants. Une merveilleuse espérance qui nous permet de traverser les difficultés et les souffrances d'aujourd'hui. Et cette espérance nous invite à considérer que effectivement les souffrances actuelles ne font pas le poids face à ce que Dieu va faire, même si c'est très difficile à comprendre. Mais Paul nous invite également à nous appuyer sur le fait que Dieu agit déjà maintenant dans la vie présente, y compris dans les souffrances. Et il nous donne ce verset fabuleux, Romains 8, 28. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Incroyable, merveilleux. merveilleux. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Mais faites attention aux mots. Parce que moi, j'aimerais bien lire que Dieu provoque, génère toutes choses pour le bien-être de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas ? Ça serait tellement plus simple. Mais effectivement, au travers de ce verset, se pose la question de qu'est-ce qui est bien pour ceux qui aiment Dieu ? Qu'est-ce qui est bien pour moi ? Qu'est-ce que Dieu dit de ça ? De ce qui est bien et bon pour moi ? Parce qu'on le sent bien que Paul va un peu plus loin que la question du bien-être. Vous remarquez que dans ce verset, Paul parle du fait que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et par rapport à ce plan, il dit quoi ? Il dit que nous avons été appelés par rapport à ce plan. Que Dieu nous connaît d'avance. Que Dieu nous destine d'avance. À quoi ? À devenir conforme à l'image de son Fils. Voilà ce qui est bien et bon pour moi. Être conforme à l'image de Jésus. Alors j'ai bien conscience que si vous ne connaissez pas trop Jésus, ça ne semble pas forcément un projet ou un objectif de vie particulièrement exaltant. Mais du coup, il faut quand même se poser la question alors. Et je vous invite à rechercher, mais alors qui est Jésus ? Si c'est le plan de Dieu, ben la question mérite d'être posée quand même. Je vous donne quand même quelques pistes. Je vous laisserai réfléchir si vous ne connaissez pas Jésus, à qui il est. Mais c'est quand même l'homme qui a le plus bouleversé l'histoire de l'humanité. Jésus n'a jamais rien écrit. Mais ce qu'il a vécu a été tellement marquant que 2000 ans après, il y a encore des gens dans tous les pays, dans toutes les cultures, y compris à Ponchara, qui disent « oui, je veux le suivre, je veux lui ressembler et je veux me faire baptiser ». Jésus, c'est le modèle par excellence de douceur, de bonté, de compassion et d'amour. Au point qu'il a dit de lui-même « je donne ma vie ». Personne ne me la prend. Je la donne et je meurs pour que beaucoup d'hommes et de femmes soient sauvés. Un exemple d'amour. En même temps, un révolutionnaire. Il a bousculé les certitudes des religieux. Il a bataillé avec les autorités religieuses pour apporter la vraie lumière. Il a apporté un enseignement radical, bouleversant. Mais c'était aussi un modèle de paix et de liberté totale. Il n'était pas prisonnier de ce qu'on attendait de lui ou de ce qu'on disait de lui. Il savait parfaitement qui il était et pourquoi il était là. Et surtout, au cœur et au centre de la vie de Jésus, il y a une relation et une intimité tellement forte avec Dieu le Père. À tel point qu'un de ses disciples les plus proches, celui pour qui Jésus avait une affection particulière, Jean dira que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est grâce à Jésus. Tellement leur relation était intime. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est au travers de Jésus. Et le plan de Dieu, ce qui est bien pour nous, c'est que nous lui ressemblions. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un programme ambitieux. Et voilà ce que dit Paul. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu nous a connus, nous a appelés et nous a destinés à cela. C'est-à-dire que, en cherchant Clément, et vous tous, en cherchant à devenir comme Jésus, tu rentres dans ta destinée. Tu deviens le véritable toi-même. Tu trouves ta véritable identité. Parce que tu es fait pour ça. Dieu ne te demande pas et ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il nous a créés avec des capacités, une personnalité, des dons et des talents uniques. Et nous sommes chacun uniques. Et tu es unique. Mais il veut nous amener à devenir comme Jésus dans une relation intime et profonde avec lui. Une relation qui va tout transformer. Une relation qui te rendra libre comme Jésus était libre. Une relation qui te donnera la paix, la vraie paix. Une relation où tu découvres que tu as besoin de Dieu, que tu as envie de Dieu dans tous les aspects de ta vie et que tu es fait pour être en relation avec lui. Dieu t'appelle et te destine à cela. En te décentrant de toi-même et en te centrant sur Dieu, c'est là que tu t'accomplis vraiment. C'est là que beaucoup de choses commencent à faire sens et que tu trouves ta véritable identité. Mais revenons à la question de la souffrance, parce qu'on parlait de ça. Paul, il ne dit pas que Dieu va provoquer toute chose, ou qu'il est à l'origine de toute chose. Il dit, peu importe son origine, dans tout ce qui va t'arriver, Dieu peut et Dieu va l'utiliser pour ton bien, c'est-à-dire pour te rendre comme Jésus. En tout cas, si tu choisis de l'aimer et de le suivre. Quand je dis ça, j'ai bien conscience que c'est hyper facile d'être ici, de me tenir devant vous et de vous dire tout ça. C'est des mots. Mais quand on est au cœur de la souffrance, quand on est au cœur des difficultés, se dire que Dieu va l'utiliser pour mon bien, eh ben parfois c'est quand même difficile à croire. Parfois ça semble même décalé. Parfois ça ne semble même apporter aucun réconfort. N'est-ce pas ? Quand on voit certaines horreurs, certaines tragédies qui se passent dans le monde, et les chrétiens sont tout autant concernés que les autres dans ces réalités-là, en quoi ça peut servir au bien ? Alors Paul va aller plus loin dans son argumentation. Et si on continue de la lecture de ce texte, on peut lire à partir du verset 31, « Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces versets-là. Mais Paul nous invite à nous accrocher à une réalité qui nous dépasse, celle de l'amour de Dieu pour ses enfants. Un amour qu'il a démontré en Jésus. Et quand il dit ça, Paul, il n'est pas naïf. Parce que quand il parle de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim, de misère, de danger ou d'épée, il sait très bien qu'en traversant cela, on va se poser la question, mais il est où Dieu là-dedans ? Dans mes angoisses ? Dans ma misère ? Dans le danger que je traverse ? Il est où Dieu ? Il est où son amour ? Pourquoi est-ce qu'il permet cela ? Qu'est-ce que ça change ? Mais quand Paul nous dit tout ça, quand il dit que toutes ces sources de souffrance ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, Paul, il n'est pas en train de faire un exposé théorique. Il parle d'expérience. Parce que Paul, il a connu la détresse. Paul, il a connu la persécution. Il a connu la faim, il a connu la misère, il a connu le danger. Et pour Paul, il peut dire que savoir et connaître, avoir expérimenté l'amour de Dieu, lui permet d'être vainqueur dans toutes ses difficultés et dans toutes ses souffrances. C'est son expérience qui parle. Ce n'est pas juste son raisonnement. J'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup et qui, pour moi, résume ce que je peux trouver dans la Bible sur cette question. C'est un auteur qui s'appelle Paul Claudel, qui a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » D'autres personnes connues comme Martin Luther King ou Dietrich Bonhoeffer ont eu des citations qui ressemblaient un petit peu à ça, mais je trouve que celle-là, elle est particulièrement pertinente et elle correspond à ce qu'on peut trouver dans la Bible. « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. » Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Oui, Dieu m'aime, peu importe les circonstances, peu importe ce que je pense, peu importe même ce que je ressens. Rien, même pas moi, ne peut me séparer de l'amour que Dieu a pour moi. Dieu n'a pas dit qu'il répondrait à toutes mes questions. Dieu n'a pas dit qu'il me donnerait une intelligence extraordinaire pour comprendre tous les mystères. Et pourquoi il y a la souffrance ? Et pourquoi je dois passer par là ? Mais il veut remplir ma vie. Il veut remplir mes peurs. Il veut remplir mes doutes. Il veut remplir mes échecs. Il veut remplir mes souffrances et mes douleurs de sa présence. Et par sa présence, Dieu peut faire quelque chose de mes souffrances. Dieu peut faire quelque chose de beau et de bien. et me rendre semblable à Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est naturel. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Combien d'hommes et de femmes dans la Bible ont crié à Dieu, ont bataillé avec Dieu, parce qu'ils ne trouvaient aucun sens à ce qu'ils vivaient. Ils ne trouvaient aucun sens à ce qui se passait. Ils ne trouvaient aucun sens aux souffrances qu'ils traversaient. Mais au bout de ces batailles, Dieu était là. Ils ont pu expérimenter la paix et l'amour que Dieu a pour eux. Et il parle d'expérience, il ne parle pas de théorie. Et je le vois dans l'expérience de tant de personnes dans la Bible qui ont vécu la souffrance, qui l'ont traversée en luttant avec Dieu et qui ont pu témoigner de cette paix et de cet amour. On peut penser à Job, bien sûr, mais il y avait aussi Jacob, le patriarche. Il y avait aussi le roi David. Il y avait aussi le prophète Élie. Il y avait aussi l'apôtre Paul et tant d'autres. Et il y avait même Jésus. Jésus a connu les souffrances. Jésus a connu l'angoisse. Jésus a lutté. Évidemment, et heureusement, la vie de disciple, Clément, ne se résume pas à affronter la souffrance. Mais parfois, elle passe par là. En choisissant de devenir disciple, Clément a choisi un chemin magnifique. Un chemin où Dieu veut te bénir, va te bénir. Et il a déjà commencé. Tu en as témoigné. Dieu va prendre soin de toi. Il va t'accompagner, il va cheminer avec toi. Mais Dieu ne te promet pas une vie simple et facile. Mais il te promet d'être là. Et ça change tout. Il te promet que rien ne pourra changer l'amour qu'il a pour toi. Que rien ne changera le prix que tu as à ses yeux. Et quoi que tu vives, quoi que tu traverses, Dieu est le seul à pouvoir en faire quelque chose de beau et il va le faire. Et toi ? Je n'ai pas envie de parler qu'à Clément, j'ai envie de vous parler à vous tous. Et en particulier, si toi, tu ne connais pas encore Dieu, si tu n'as pas encore fait cette démarche, est-ce que tu n'as pas envie de laisser entrer Dieu dans ta vie ? De devenir celui que tu es vraiment ? De réaliser que Dieu te connaît depuis toujours, qu'il te désire, qu'il t'appelle ? Et qu'il a aussi un plan merveilleux pour toi. Je termine juste avec cette pensée. Merci.